Radio Okapi.
Le journal en français, Belinda Bossouma.
L'UDPS en congrès aujourd'hui et demain à Kinshasa. Il s'agit de voter le successeur d'Étienne Tshisekedi. Plusieurs délégations du pays et de l'étranger y prennent part. Dans son discours, le secrétaire général Jean-Marc Kabound a appelé les candidats à la courtoisie et à la tolérance. Kivu, un policier et un militaire tués hier soir à Kavumu par des bandits. Ils ont été touchés par balles alors qu'ils portaient secours à une famille attaquée. Et puis cette bonne nouvelle pour les populations du Kasaï central, bientôt la construction des forages d'eau potable à travers la province. Pour en parler, nous recevons le ministre provincial de l'Environnement, Grégoire Ngalamouloumé, à suivre en seconde partie de ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir. Le congrès de l'UDPS a démarré cet après-midi à Kinshasa. Plusieurs délégations venues des différentes provinces et ceux de l'étranger sont présents à la permanence du parti à Limété où se tiennent les assises. Eve Bazaïba, Vital Kamere et Martin Fayulu y participent comme invités spéciaux. Dans son discours, le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, a souligné qu'au cours de ce congrès, il ne s'agit pas de faire le bilan, mais plutôt de voter le président national du parti qui doit succéder à Étienne Tshisekedi. Paul Matendo pour le reportage.
D'entrée de jeu, Jean-Marc Kabound a invité les congressistes à observer une minute de silence, d'abord en mémoire d'Étienne Tshisekedi et ensuite de tous les combattants de l'UDPS tombés lors des différentes manifestations politiques. Il a précisé que l'objectif premier de ces assises n'est pas de faire le bilan, mais de voter le candidat qui doit succéder à Étienne Tshisekedi. Le secrétaire général a brossé devant les congressistes les profils du candidat à voter tout en insistant sur les valeurs morales. Les candidats doivent retenir que l'UDPS n'est pas un patrimoine familial, a-t-il insisté. Après les divergences internes, ce congrès doit conduire l'UDPS à la victoire lors des élections, a-t-il terminé. Délimité, Paul Matendo, Radio Okapi.
Par ailleurs, sachez que l'UDPS présidé par Bruno Tshibala n'est pas légalement reconnu en RDC. Le Premier ministre et ses compagnons devront soit retourner au sein de l'UDPS Limité ou alors créer leur propre parti politique avec un nom autre que l'UDPS. C'est ce qu'a décidé jeudi à Kinshasa le Conseil national de suivi de l'accord. Joseph Olingankoy, il a dit dans une interview accordée aujourd'hui à Radio Okapi. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
À ce stade, la question de l'UDPS n'a plus de débat. En lisant les statuts de l'UDPS, dont notamment l'article 26, qui détermine les personnes habilitées, après la mort du président de l'UDPS, à faire le suivi de leur hiérarchie dans leur organisation politique. Et dans ça, nous avons vu que c'est le secrétaire général qui est aujourd'hui en vie, qui était la personne habilitée. Alors, c'est les actes posés par ce monsieur qui sont les actes légaux. Alors, les gens qui nous ont demandé, par exemple, de faire l'IDPS bar, là, nous entrons dans les aventures. Même par respect aux mémoires de défunt Étienne Tshisekedi, on ne peut pas se diverser dans les anarchies. La question de M. Bruno Tshibala, il a fait son congrès, et dans le congrès, c'est de nouveaux statuts. C'est-à-dire, il a quitté immédiatement dans la logique fondamentale de l'IDPS. Pour l'aider à aller jusqu'au bout de sa logique, il faut maintenant que lui aussi crée son parti, qui n'a rien à voir avec l'IDPS. Donc, moi, je pense que ce que le CSA a fait, ce n'est que justice et nous allons faire mieux que ça encore.
Notez aussi cette autre réaction à propos du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Le coordonnateur du rassemblement de l'opposition dans le Grand Katanga salue la nouvelle résolution 2409 du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour Gabriel Kyungwa Kumwanza, le souhait de l'opposition a toujours été de voir la communauté internationale prendre en charge le processus électoral pour l'organisation d'un scrutin apaisé. Il l'a dit jeudi en marge de la rencontre avec une délégation de la MONUSCO à Lubumbashi. Gabriel Kyungwa Kumwanza au micro.
C'est une résolution qui nous met tous à l'aise. Nous avions toujours souhaité que la communauté internationale prenne en charge le processus électoral afin que nous puissions arriver à organiser des élections apaisées, des élections sincères et les élections inclusives. Dans cette résolution, on met l'accent sur l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est tout, parce que c'est ce qui bloque jusqu'aujourd'hui le processus électoral, c'est-à-dire la libération des prisonniers politiques, la liberté de manifestation et le retour de ceux qui sont à l'extérieur, notamment Moïse Katumbi-Tchakwe, pour venir participer au processus électoral. C'est ça l'inclusivité, c'est ce qui nous réjouit et nous saluons cette résolution.
Qu'adviendra-t-il si le dernier point n'est pas bien exécuté?
La résolution n'aura pas de sens parce qu'on a pris cette résolution pour résoudre toutes ces difficultés, parce que ceux qui s'opposent à cela ne veulent pas d'élections, mais ils font semblant d'organiser les élections alors qu'en réalité, ils ont peur des élections.
Je vous le disais en titre, un policier et un militaire ont été tués par des bandits armés hier soir à Kavumu dans le sud Kivu. Par compassion à ces vaillants soldats et policiers tués en voulant protéger quelques civils attaqués, la population a interrompu toutes les activités aujourd'hui dans cette cité. La police renseigne que les enquêtes en cours évoluent bien et que les suspects pourraient être attrapés. Jean Kassami nous relate les faits.
Les deux victimes sont tombées dans une embuscade lorsque les éléments de l'ordre sont venus apporter une assistance à une famille attaquée par des bandits armés non clairement identifiés. La force d'intervention qui croyait avoir dispersé les assaillants s'est mise à évaluer les dégâts causés par les tirs de balles sur les murs de la maison attaquée. Brusquement, l'équipe est surprise par deux balles tirées par derrière la maison et qui atteignent mortellement un policier et un militaire. La police atteste que le corps du militaire tué a été conduit à la morgue de l'hôpital général de référence de Bukavu. Celui du policier était toujours gardé l'avant-midi à l'état-major du commissariat territorial du lac Kivu. La société civile de Kavumu indique pour sa part que 5 noms de personnes à liquider figurent sur les tracts qui circulent dans les milieux depuis une semaine, annonçant que la vengeance ne vieillit jamais. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Au nord Kivu voisin, les combattants des trois factions Maïmaï qui ont fait reddition à Beni et à Butembo il y a quelques mois sont finalement arrivés hier à Goma, certains accompagnés de leurs dépendants. Ces combattants attendent leur intégration au sein des FARDC selon les promesses faites par le gouvernement congolais pendant les négociations, affirme-t-il. D'autres détails avec Gabriel Wamenya.
Ils sont au total 80 combattants, parmi eux des femmes. Ils viennent des trois factions des groupes armés dont l'Union des Patriotes pour la Défense des Innocents, IPDI, et la Résistance Nationale, Lumumbiste, actifs dans les territoires de Lubero. Il y a aussi l'Organisation d'autodéfense des Patriots de Beni, basée dans les secteurs de Maïmo et Atchani-Tchani, aussi de la ville de Beni. Jusqu'en fait de la matinée, ils étaient encore confinés dans les véhicules qui les a transportés devant les bureaux de renseignement de la 34e région militaire. Ces combattants affirment avoir répondu à l'appel du gouvernement congolais après de longues négociations entre les deux parties. En effet, ces combattants munis de 14 armes AK-47 et 23 lances disent attendre maintenant la matérialisation de toutes les promesses et garanties socio-sécuritaires faites par le ministère national de l'agriculture, pêche et élevage après les redditions à Beni et à Butembo. Selon eux, l'une des grandes promesses faites par le gouvernement, c'est leur intégration sans condition dans les forces armées de la RDC au sorti du centre de formation militaire de Mubambiro, où seront cantonnés. Les hauts gradés de ces combattants a souligné que seules les conditions auxquelles ils seront soumis et le respect des engagements pris restent les principaux gages afin de dissuader d'autres combattants à quitter la brousse. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Cap sur la province du Sud-Ubangi, le calme est revenu à Boudjala après la tension hier entre les chrétiens et les musulmans. À l'origine, le meurtre d'un chrétien hier par un musulman pour un problème d'adultère. Récit des faits avec Dominique Olombi.
Un calme précaire règne à Boudjala depuis hier après le meurtre d'un croyant chrétien par un compatriote local musulman. Celui-ci, Waramu Tombi, c'est son nom, avait surpris, confirme des sources concordantes, un flagrant délit d'adultère avec son épouse, la victime. Séance tenante, sans autre forme de procès, armé d'une machette, il a coupé les deux jambes de sa victime. Celui-ci a rendu l'âme quelques heures après, suite à l'hémorragie. Le meurtrier musulman a pris fuite aussitôt après son forfait, laissant la communauté dans la confusion. Les chrétiens ont réagi aussitôt. Ils ont d'abord déposé le corps de Zalo Loua, la victime, un commerçant de Boudjala, devant le bureau du territoire de Boudjala. La famille de la victime avec quelques chrétiens se sont ensuite empris à la communauté musulmane. Ils ont incendié leurs habitations. L'administrateur des territoires intérimaires, lui-même qui vient d'Académie, a dû s'enfuir pour sa sécurité. Les autorités du Sud-Ubangi ont dépêché hier même une équipe de la police d'intervention rapide à Boudjala pour calmer la situation. Dossier à suivre. Mbandaka, Dominique Wolombimonga Pangé, Radio Okapi.
Calme est revenu aussi dans la localité de Yaïsouli, province de la Tchopo. Cela, 5 jours après les incidents survenus au lendemain de la disparition brutale du président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, qui était en vacances parlementaires dans cette contrée. Selon l'administrateur du territoire d'Isangui en mission de pacification à Yaïsouli, la situation est dramatique. Toutefois, Joseph Mindenga affirme qu'avec sa présence sur les lieux, la population commence à regagner le village. Après avoir passé quelques jours dans la forêt, l'administrateur d'Isangui parle de plus ou moins 9 maisons incendiées et au moins 6 blessés par arme blanche. Joseph Mindenga explique au téléphone de Jacques Moukonkolé.
Après les incidents, on a dénombré 6 blessés, dont un par machette, et l'autre par 2-3 armes blanches. Bon, il y a des petits blessés. Il y a un qui a été grièvement blessé, ben, c'est comme si il a été interné. Je n'ai pas compris comment on l'a fait fuir, je ne sais pas. Il y a aussi un brûlé, oui, mais il n'y a pas eu de mort jusqu'à là.
Et que pouvez-vous dire du point de vue des dégâts matériels?
Bon, les dégâts sont très importants parce que il y a au moins 6 maisons incendiées avec les effets dedans. Pour le monsieur là qu'on appelle maestro, sa maison et la maison de sa famille, au moins 6 au total, avec au moins 47 de padis que moi-même j'ai vu de mes propres yeux. Les groupes électrogènes sont incendiés avec tous les effets de la maison. Mais de l'autre côté, on a incendié une boutique avec 3 maisons de station.
Santé. Dans le Haut-Katanga, 6 zones de santé sont touchées par l'épidémie de rougeole. 437 cas sont enregistrés de janvier à ce mois de mars, selon le bulletin d'information du Bureau de coordination de l'action humanitaire OCHA, publié hier. À la division de la santé du Haut-Katanga, on parle des cas suspects de rougeole. Denise Maéo nous en dit plus.
Sur les 6 zones de santé touchées par l'épidémie de rougeole dans la province du Haut-Katanga, 5 sont de la ville de Lubumbashi. Il s'agit des zones de santé de Kampemba, Kipushi, Kisanga, Mumbunda et Ruashi. Le Bureau de coordination de l'action humanitaire OCHA indique que du 1er janvier au 18 mars, la province a notifié 473 cas de rougeole. La ville de Lubumbashi à elle seule compte 49% des cas. D'autres sources parlent de près de 500 cas enregistrés à Lubumbashi. Selon OCHA, une enquête sanitaire qui a été menée dans les aires de santé de Lubumbashi démontre que parmi les causes de la propagation de cette maladie, il y a la faible couverture vaccinale, la promiscuité dans certains coins de la ville et la malnutrition. Pour l'heure, les zones de santé touchées renforcent la vaccination de routine contre la rougeole, a déclaré le chef de la division de la santé du Haut-Katanga. Elle cible les enfants dont l'âge varie entre 6 mois et 5 ans. Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Kapi.
À Kananga, 17 agents de la Société congolaise de poste et télécommunications ex-OCPT dénoncent les conditions de leur mise à la retraite en décembre dernier. Certains disent ne pas avoir atteint l'âge de la retraite fixé à 65 ans dans la convention collective de l'entreprise. Faute de pouvoir réintégrer l'entreprise, ces anciens agents réclament le paiement de leur décompte final. L'un d'eux, Félix Mwambayi, s'exprime au micro de Joël Bofengo.
Personnellement, j'ai 52 ans, je me trouve dans la retraite, en pleine mission de service, on me suspend, on m'envoie dans la retraite, sans que je ne sache pas donc pourquoi je suis allé. Tout un chacun qui a donc 65 ans a droit à la retraite, mais celui qui est moins de 65 ans n'a pas droit à la retraite. Pour moi, je peux dire que c'est une erreur qui s'était glissée. Hier, on avait induit l'autorité nationale en erreur par sa direction des ressources humaines. On nous a dit qu'on les avait demandé qu'ils puissent enseigner les travailleurs de la SCPT, ils sont trop nombreux. Si la direction générale se voit impuissante d'entretenir tous ces gens-là au travail, mais qu'on leur donne l'heure de compte final, tout en calculant aussi les temps qui restent, ils doivent leur donner l'argent de tous ces temps-là, puisque la convention collective est claire.
Interrogé, le directeur des ressources humaines de la SCPT indique que ses agents ont encore la possibilité d'envoyer à la direction générale des documents qui certifient leur vrai âge pour que leur dossier soit corrigé et que leur situation soit régularisée.
Actualité Afrique Monde.
Le Gabon accueille la quatrième réunion des régulateurs des télécommunications en Afrique. Durant deux jours, les experts de télécommunications dans le continent ont planché sur plusieurs dossiers, dont celui de la création d'un réseau téléphonique unique en Afrique. Concrètement, il s'agira de permettre aux Africains de partir d'un pays à l'autre sans avoir besoin d'une carte SIM locale, mais sans aussi payer des frais de roaming pour recevoir et émettre des appels. Le projet est piloté par Amadou Touré, secrétaire général de Smart Africa. Au Sénégal, le verdict est enfin tombé dans le procès du maire de la ville après une année de procédure. Khalifa Sall est condamné à 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende. Il est poursuivi pour détournement des deniers publics. En Turquie, au moins 17 personnes sont mortes et 36 autres blessées dans l'accident d'un minibus transportant des migrants clandestins pakistanais, afghans et iraniens. L'accident est survenu hier tard dans la soirée à la frontière arménienne. Selon l'agence officielle Anadolu, qui précise que plus de 50 personnes étaient à bord du véhicule bondé, conçu pour transporter 14 passagers seulement, le minibus qui avait fait passer les migrants depuis l'Iran a pris feu après avoir percuté un lampadaire. Terminant au Mexique, où la campagne électorale pour la présidentielle du 1er juillet prochain a démarré aujourd'hui, 4 candidats sont en lice pour une élection qui s'annonce mouvementée. L'enjeu de cette campagne est fondamentale. Pour la première fois dans l'histoire du Mexique, elle pourrait conduire à l'élection d'un président de gauche.